Chapitre 7. Quelques mots sur une carte avaient informé le colonel que Gérardine se trouvait avec sa mère à Vichy. Il s'attendait donc à la voir arriver un de ces jours, et cette perspective ne le réjouissait guère, étant donné surtout la présence de ses hôtes étrangers. Ceux-ci n'avaient qu'antipathie pour ce genre de femme, il le savait. Ah, fallait-il qu'il en fût réduit à souhaiter de ne point recevoir son unique petite fille, alors qu'il avait dans le cœur tant de réserves d'affection dont elle aurait pu être la bénéficiaire. Dire que, dans son enfance, elle était une si bonne enfant, cette Gérardine. Turbulente, un peu capricieuse, mais loyale, gaie et aimant beaucoup son grand-père. Hélas, la mère avait passé par là. La Gérardine d'aujourd'hui était l'œuvre de cette femme inintelligente et vaniteuse. Maurice Pardeuil, avocat très occupé, d'ailleurs nature égoïste, ne demandant que la paix chez lui, s'était désintéressé de l'éducation de sa fille, en dépit des observations de son père. « Elle est comme bien d'autres, » répondait-il en levant les épaules. « Quand elle sera mariée, elle verra les choses plus sérieusement. » « Ah oui, l'agréable épouse qu'elle fera, » ripostait le colonel. « Tu m'en diras des nouvelles quand elle aura trouvé l'idiot qui l'épousera. » Mais, tout en exhalant sa colère, le pauvre colonel souffrait d'avoir à parler sur ce ton de sa petite fille. Dans sa vieille maison familiale, il retrouvait mieux qu'ailleurs le souvenir de l'enfant qui venait y passer les vacances, tandis que sa mère se distrayait sur quelques plages à la mode. À cette époque-là, Gérardine aimait le logis dont les grandes pièces résonnaient du bruit de ses rires et de ses chants. Elle aimait le jardin au parterre bordé de buis où fleurissaient les rosiers et les glaïeuls, le verger dont elle pillait les fruits au grand courroux de Clémence, la servante, qui la chérissait pourtant. Mais depuis qu'elle était jeune fille, elle s'en moquait de ce jardin désuet. Elle ne venait plus à l'accueil, sauf lorsqu'une circonstance quelconque l'amenait dans la région. Ainsi en était-il cette année. La présence allait donc, momentanément, faire fuir le fantôme de la petite Gérardine affectueuse et toute simple que l'aïeul retrouvait dans tous les recoins du logis, à tous les détours des allées. Elle apparut vers la fin d'une matinée, vêtue de soie rose vif, les bras et la gorge couleur de bronze. Le colonel était occupé à émonder ses rosiers. Il sursauta un peu en entendant de loin « Bonjour, grand-père !» En étouffant un soupir, il se tourna vers la jeune personne qui s'avançait, la mine souriante. « Ah, te voilà! Clémence t'a vu. À cause du déjeuner, il faut qu'elle sache. » « Oui, c'est elle qui m'a ouvert la porte du garage. C'est tout juste si je puis entrer ma petite voiture. La vôtre et celle de M. Herbievix occupent presque toute la place. » Gérardine se penchait en parlant et effleura de ses lèvres le visage de son grand-père. « Ta mère va bien ?»« Pas mal. Elle a commencé son traitement. Ce jardin est immuable. À 20 ans de distance, on y retrouve toujours les mêmes fleurs. C'est le triomphe de la tradition. » Le colonel grommela. « Si c'est pour débiner mon jardin que tu viens ici, tu pourrais aussi bien demeurer parmi ton entourage de snob. Tu t'y plaisais cependant bien autrefois, Gérardine. » Elle éclata de rire. « Oh, quand j'avais 10 ans! Vous remontez au déluge, grand-père. Il a passé beaucoup d'eau là-dessus. Mais je ne toucherai plus à votre cher jardin. Parlons plutôt de vos hôtes. Le grand artiste est ici ?» Oui, charmant, autant que son frère, quoique différent. Mais, ma petite fille, la voix du colonel prenait un accent de prière. Je te demande de modérer un peu ton genre, tes manières. Ces messieurs ne les apprécieraient pas du tout, je t'assure. Les lèvres un peu trop longues, dont le rouge accentuait le défaut, eurent un pli de dédain. Leur opinion m'importe peu. Je serai moi-même, voilà tout, sans chercher à jouer la comédie. Toi-même, ah, j'espère que tu ne l'es pas quand tu te montres sous ton plus mauvais jour. J'espère qu'il y a encore quelque chose de bon en toi, mon enfant. » Le vieillard considérait avec tristesse cette physionomie en laquelle il retrouvait si peu de choses de la petite fille d'autrefois. Cependant, pendant l'espace de quelques secondes, il crut revoir dans les yeux gris à l'éclat artificiel un reflet de cette tendresse qu'il avait connue en ceux de l'enfant, surtout quand elle avait fait quelque peine à son grand-père. Mais ne se trompait-il pas? car la voix brève, railleuse, ripostait. « Vous êtes bien bon de garder encore cet espoir-là, grand-père. Je ne fais cependant rien pour vous y encourager. Sur ce, je vais m'arranger un peu dans ma chambre. Vous ne l'avez pas donné à l'un de ces messieurs ?»« Non, ils ont les chambres sur le devant. La tienne était tenue prête par Clémence. À tout à l'heure, petite. » Il la regarda s'éloigner en soupirant de nouveau. Puis il se remit à soigner ses rosiers. Dans l'après-midi, Alexis et Witold s'en allèrent seuls vers la Barcelle. Le colonel avait promis au maire, un ami d'enfance, de présider une réunion de bienfaisance et ne pourrait se trouver chez Madame Charolles avant l'heure du dîner. Il avait chargé les jeunes gens d'apprendre à leur hôtesse qu'il leur amènerait Gérardine. Cette nouvelle parut causer un sensible déplaisir à la vieille dame et amena cette réflexion de Phyllis. « Quel dommage ! Elle va nous gâter notre soirée !» Witold lui fit écho par un « hélas » qui partait du cœur. Alexis se mit à rire. « La pauvre Gérardine n'a pas produit le coup de foudre sur lui, Phyllis. Vous ne vous en étonnez pas, je pense. »« Oh, pas du tout !» Elle riait aussi en regardant la moue légère qui demeurait aux lèvres de Witold. « C'est tout ce que je déteste comme femme, » dit le jeune homme avec force. « Elle est odieuse, odieuse !» « C'est une pauvre âme !» Pensivement, Alexis laissait tomber ces mots. Witold posa sur son épaule une main amicale. « Elle serait probablement fort étonnée d'apprendre que tu la plains, car elle ne produit aucunement l'effet d'une personne qui souffre. Mais en attendant l'ennui de la revoir ce soir, profitons de ce temps parfait pour faire une longue promenade. Tu avais promis de nous emmener au Mont d'Or, que je ne connais pas. Et je tiens ma promesse. » « Phyllis, allez vite mettre votre chapeau. Venez-vous aussi, chère madame. » Mais madame Chardolles se récusa. Elle avait beaucoup à faire, le mariage de sa petite nièce devant avoir lieu à la mi-juillet. Phyllis partit donc dans la voiture d'Alexis qu'il avait découverte. Witold se trouvait derrière avec sa future belle-sœur qui lui nommait les sites aperçus au passage et commentait avec chaleur les beautés de sa terre natale. Elle sentait qu'il éprouvait les mêmes émotions, les mêmes enthousiasmes. Quoique de nature réservée, il les laissait voir plus facilement qu'Alexis. Les lacs, dans le sombre cadre de leur sapinière, la route, se déroulant dans le décor volcanique des puits, amenaient sur ses lèvres de brèves exclamations qui trahissaient le profond plaisir de son esprit. Ils rentrèrent tous trois, enivrés d'air, de soleil, du parfum qui s'exhalait des bois, à cette heure où le jour déclinait. Witold regardait le profil de Phyllis, ce fin visage qui s'offrait à l'air vif du soir et qui avait une expression d'enfantine allégresse, de contentement ingénu. Alexis, au volant, souriait à son bonheur et songeait qu'il allait revoir tout à l'heure les chers yeux bruns, plus beaux encore, de tout l'éclat que leur aurait donné le plaisir de cette excursion. Dans la cour, la vue d'un petit cabriolet bleu de roi jeta un froid sur les promeneurs. Gérardine était arrivée. Tandis qu'Alexis s'attardait pour donner un coup d'œil à son moteur, Phyllis et Witold gagnèrent la maison et entrèrent dans le salon. Madame Chardolles causait avec le colonel. Gérardine, assise dans une bergère, jouait avec le petit chien de Phyllis. Elle regarda les deux jeunes gens, serra un peu les lèvres, puis eut un sourire bizarre qui subsistait encore, tandis qu'elle prenait la main que Phyllis lui tendait avec un mot de bienvenue. Au cours du dîner, elle parla moins que de coutume et parut mettre une sourdine à la verve garçonnière qu'elle affectait généralement. Le colonel en fut un peu soulagé, en même temps qu'ému, car il pensait « Elle a tout de même quelques égards pour son vieux grand-père, cette petite. Elle ne veut pas qu'il ait trop à rougir. Elle ne veut pas qu'il ait trop à rougir d'elle devant des étrangers. » Mais il constatait aussi que le voisinage de Phyllis accentuait tout ce que le genre, la tenue de Gérardine, avait de déplorable. Après le fin et excellent dîner, dû à la collaboration de Phyllis et de la vieille servante Marion, les hôtes de Madame Chardolles s'assirent dans le jardin, près d'une des portes vitrées du salon. Phyllis servit des liqueurs. Puis elle prit un fauteuil près de son fiancé. En face d'elle se trouvaient le colonel et Witold, qui fumaient en parlant de Varsovie, où le vieillard avait fait autrefois un séjour. La lumière qui arrivait du salon laissait les deux ombres dans une pénombre. Phyllis distinguait à peine le visage de Witold. Cependant, elle le voyait par la pensée, comme si la plus vive clarté l'eût éclairé. Elle voyait ses yeux qui renfermaient tant de vie mystérieuse et des songes si beaux, ce front bien modelé sous les cheveux blonds, épais, plus foncés que ceux d'Alexis, cette bouche au sourire doux, si charmeur. Tout à l'heure, Witold allait interpréter une de ses œuvres. Elle le lui avait demandé cet après-midi et il avait répondu « Ce soir, je jouerai ce que vous voudrez ». Elle attendait avec un peu de fièvre. Elle songeait « Je sais d'avance que ce sera si beau, trop beau ». Madame Chardon le causait à bâton rompu avec Alexis. Gérardine fumait en silence. Elle dit tout à coup « Vous dormez, Phyllis ?» Phyllis tressaillit, puis se tourna vers Mademoiselle Pardeuil, assise à sa gauche. « Pas du tout, je suis même très éveillée. »« Alors, vous rêvez ?» Et à voix plus basse, avec un petit rire sardonique, Gérardine ajouta « Vous rêvez à votre Alexis ?» Phyllis secoua doucement la tête sans répondre. Gérardine rit de nouveau en murmurant « Ah, ces petites filles sentimentales, c'est terrible les surprises qu'elles peuvent réserver !» Phyllis la regarda avec étonnement. « Quelle surprise !»« Enfant innocente, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Vous vous en apercevrez toujours assez tôt. » Sur ces énigmatiques paroles, Gérardine se remit à fumer. Alexis, à ce moment, demanda à sa fiancée « Voulez-vous que Witold se mette maintenant au piano ?»« Oh oui, oui !» « Tu entends, Witold ? Me voilà, cher ami, tout à la disposition de Mademoiselle Phyllis. » Witold se levait et venait vers la jeune fille. « Que désirez-vous entendre ? J'aimerais tout d'abord les heures de la vie. » Soit. Tandis qu'il entrait dans le salon, Madame Chardol et Gérardine se levèrent pour le suivre. Alexis se pencha vers sa fiancée qui n'avait pas bougé. « Vous restez là, Phyllis ? Oui ? J'aime mieux l'entendre d'ici. » Vous avez raison. Le colonel, lui aussi, ne quittait pas sa place en continuant de fumer. Dans le salon, s'élevait la voix brève de Gérardine, qui parlait à Witold d'une de ses symphonies, entendue par elle l'hiver précédent. Puis tout se tut. Le musicien préluda un instant, presque en sourdine, et commença les heures de la vie. Alexis avait pris la main de sa fiancée et l'enserrait tendrement entre ses doigts, si doux sous leur forte apparence. Mais la pensée de Phyllis n'était plus là. Elle suivait, dans un éblouissement, celle du magicien invisible. Frissons, extase, tremblants murmures, aveux passionnés, les phrases musicales exprimaient tout cela sous les doigts de Witold. Alexis avait raison, son frère seul savait rendre entièrement la pensée de son œuvre, la palpitation de vie, d'amour, dont il l'avait animée. La main de Phyllis frémissait dans celle de son fiancé. Lui aussi était ému, frissonnant d'un profond émoi. Quand la dernière note de l'Allegro eut résonné, il dit à mi-voix, d'un ton émerveillé, « Jamais il ne l'avait joué comme cela !» Et les heures tristes sonnèrent ensuite. Leurs grandes clameurs douloureuses traversaient le silence recueilli. Des sanglots s'élevaient, une voix gémissait, criait la grande souffrance humaine. Puis vint l'apaisement dans la prière. Timide, inquiète d'abord, l'âme se rassérénait, devenait confiante, exhalait de fervents appels vers son consolateur. Enfin, dans l'embrassement éternel de l'amour divin, elle se perdait, bienheureuse à jamais. Quand Witold quitta le piano, la voix de Gérardine s'éleva de nouveau, le complimentant avec une chaleur qui ne lui était pas habituelle. Madame Chardol se joignit à elle, puis vint le colonel, qui, visiblement enthousiasmé, était entré dans le salon au début de l'adagio. Phyllis et Alexis ne bougeaient pas. Ils écoutaient encore les vocations magnifiques des plus ardentes émotions de l'âme humaine, l'amour, la douleur, la prière. Les mots que les autres prononçaient, là, près d'eux, ils ne les entendaient pas. Seul dans la clarté bleue de cette nuit tiède, dans laquelle glissaient de légers parfums de fleurs, il s'absorbait en un rêve frémissant et restait immobile pour ne pas éloigner le charme merveilleux de ces minutes pendant lesquelles ils avaient vécu l'âme unie à celle de Witold. Madame Chardol appela. « Phyllis, voyons, tu ne viens pas remercier M. Herbievix ? Oh, madame, qu'elle ne se dérange pas, je vous en prie. Me remercier, quand c'est moi qui suis tellement heureux de... » Tout en parlant, Whittle s'avançait, sortait du salon et s'approchait des fiancés. Alexis dit à mi-voix, « Ta pensée nous tient encore, Whittle. Ne nous réveille pas. » D'un souple mouvement, Whittle s'assit près de Phyllis et prit l'autre main de la jeune fille. Son regard s'attacha au visage délicat, à ses yeux qui laissaient voir si bien cette émotion dont vibrait encore l'âme de Phyllis. Sa voix basse et chaude demanda, « Vous aimez beaucoup cette sonate ?»« Oui, c'est plus beau que tout. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens, mais vous voyez, je frissonne encore. » Il sentait ce frisson qui agitait jusqu'aux doigts fins, doux et tièdes entre les siens. Il voyait frémir ses lèvres d'un rose de fleurs fraîches, ses cils sous lesquels le regard semblait avoir, ce soir, un admirable éclat de vie. En se penchant, il baisa la main de Phyllis. « Merci, j'ai eu conscience de n'avoir jamais joué comme ce soir les heures d'amour. C'est que je pensais à vous, à mon cher Alexis, à votre amour si beau, si profond. Mon âme parlait pour vous en votre nom. » Alexis murmura. « Oh oui, oui, c'est ainsi que je voudrais parler, c'est ce que je voudrais lui dire. » Madame Chardolle, le colonel et Gérardine s'approchaient. Les lèvres de Mademoiselle Pardeuil s'étiraient en ce bizarre sourire qu'elle avait déjà eu plusieurs fois au cours de la soirée en regardant les trois jeunes gens. Alexis se pencha à l'oreille de sa fiancée. « Voulez-vous que nous allions nous promener un peu jusqu'au bout du jardin ?» Elle répondit machinalement « Oui, je le veux bien. » Whittle chuchota en souriant « C'est cela, allez mes chers amoureux !» Ils s'en allèrent dans la nuit tranquille, entre les charmilles et les plates-bandes fleuries. Alexis parlait encore de l'œuvre qu'il venait d'entendre. Phyllis l'écoutait avec recueillement. Son profil se dessinait dans l'ombre, en contours indécis. Parfois, elle levait sur Alexis des yeux attentifs, pleins de pensées. Tout au songe qui occupait son esprit, elle garda le silence quand le jeune homme cessa de parler. L'émotion de cette heure arrêtait les mots sur les lèvres d'Alexis. Cependant, combien il souhaitait de les prononcer avec toute la ferveur de son cœur, ces mots d'amour. Mais il lui semblait qu'il ne saurait pas les dire ainsi qu'il le fallait, ce soir surtout, où il voyait dans le regard de Phyllis une expression inaccoutumée, comme si, tout à coup, un monde merveilleux venait de lui être révélé. En passant devant une tonnelle enguirlandée de roses, Phyllis s'arrêta. « Quel parfum elles ont! Je vais en cueillir une pour votre frère, qui les aime tant !»« Attention aux épines, ma petite Phyllis, laissez-moi faire. Voici, c'est la plus belle !»« Merci, mon ami. Et vous ?»« Moi, je vous ai, ma jolie rose blanche !» Un rayon de lune glissait sur le visage de Phyllis, sur ses yeux souriants. Une joie profonde gonfla le cœur d'Alexis. En courbant un peu sa grande taille vigoureuse, il mit un baiser sur le front de Phyllis. « Ma Phyllis, ma chérie !» Sa voix tremblait. Phyllis continuait de sourire avec un air de tendresse émue. Elle dit à mi-voix « Mon cher Alexis !» Puis ils se turent. Alexis tenait la main de Phyllis et la serrait fortement. Autour d'eux, les feuillages bruissaient dans la nuit qui fraîchissait un peu. Alexis eût voulu parler encore et de nouveau les mots lui manquaient devant cette candeur tranquille, cette douceur tendre de la fiancée bien-aimée. La voix de Madame Chardolle appela. « Phyllis ! Alexis !» Ils se rapprochèrent du logis. Le colonel s'apprêtait à se retirer avec sa petite fille et ses hôtes. Gérardine, debout près de la porte du salon, discutait avec Whittle au sujet de la peinture moderne. Phyllis avança, tenant à la main la rose cueillie tout à l'heure par Alexis. « Voulez-vous l'accepter comme un remerciement pour les minutes inoubliables que vous nous avez fait vivre tout à l'heure ?»« Avec joie, ma future petite sœur, je la conserverai en souvenir de ces premiers jours où je vous ai connue. » Tout en prenant la rose, ils regardaient Phyllis et ils se sourirent longuement sous le regard heureux d'Alexis.